Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
C'est samedi et il est un peu plus de 11h sur Radio Lyon. Le moment est venu de vous accueillir dans votre rendez-vous littéraire, c'est Wagon Livre et nous vous accompagnons jusqu'à midi aujourd'hui devant notre micro. Un amoureux et un historien de l'horlogerie, auteur d'un très bel ouvrage paru aux éditions du Sequoia, ouvrage qui a pour titre « Dictionnaire passionné de l'horlogerie ». Jean-Marc Loiseau, bonjour et bienvenue dans Wagon Livre.
Bonjour.
Jean-Marc Loiseau, je vous présente rapidement à nos auditrices et auditeurs. Vous vivez actuellement dans le Doubs, à Besançon, rue Battant, mais vous êtes né en Moselle. Vous avez mené des études commerciales et puis vous êtes devenu libraire en bande dessinée, alors en Loire-Atlantique, à Nantes.
Oui, tout à fait.
Commerce que vous partagiez avec votre sœur. Ensuite, vous êtes devenu marchand de jouets anciens, toujours à Nantes. Et puis, vous avez changé de métier, vous avez pris une voie plus commerciale, raison professionnels qui vous ont conduit à Besançon où vous êtes installé depuis maintenant un bon moment. Alors vous avez un parcours formidable, on ne va pas rentrer dans le détail. Néanmoins, vous avez donc été commercial dans différentes entreprises pendant plus de 25 ans et puis après un licenciement, vous avez 50 ans, environ 50 ans.
Environ 50 ans, oui.
Courageusement, vous reprenez des études et pas n'importe quelles études, des études d'horlogerie, vous décrochez votre CAP d'horlogerie et vous vous installez alors à Besançon et vous devenez horloger-rabilleur.
Tout à fait.
Belle, très belle aventure, courageuse. Vous êtes un passionné d'histoire locale. Vous avez rédigé de nombreuses chroniques sur l'horlogerie. Alors, des chroniques que vous avez tenues devant les micros de France Bleu, on dirait ici Besançon maintenant, ou dans la presse régionale, notamment dans l'Est républicain. Alors, on va s'intéresser à cette horlogerie qui, effectivement, est étroitement liée à Besançon, plus vraiment aujourd'hui, mais Besançon, capitale de l'horlogerie française?
Ben Besançon a toujours été qualifiée de cette façon. On la reconnaît. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Barcelone et je dis que je suis originaire de Besançon et on me dit « Ah, Besançon, l'horlogerie ». On me dit ça en catalan, bien sûr, mais j'ai très bien compris. Et les gens, Besançon, c'est leur référence. Alors que souvent en France, on confond Besançon et Briançon, mais dans le monde entier, Besançon, c'est vraiment l'horlogerie.
Et pourtant, on ne peut pas dire que l'horlogerie soit née en Franche-Comté dans le département du Doubs. Si je vous ai bien lu, Jean-Marc Loiseau, l'horlogerie serait née plutôt là où s'installait la cour royale, c'est-à-dire plutôt vers
les
beaux châteaux de la Loire.
Tout à fait. On a les premiers horlogers sont installés à Blois. Hein, donc à Blois, on a par exemple un horloger qui s'appelle Coudray et qui est censé avoir fait la première montre mécanique et l'avoir offert à François Ier.
Mais finalement, cette mécanique microscopique, on la trouve en Suisse, mais également en Allemagne.
Alors en Suisse, c'est le hasard de l'histoire, parce que les premiers horlogers installés à Genève sont des horlogers français. Si vous voulez, c'est les horlogers, comme beaucoup d'artisans, beaucoup d'artistes, sont protestants. Donc on a ces huguenots chassés, torturés, qui partent aux galères, qui sont tués, enfin voilà. Et donc un certain nombre d'entre eux, une majorité, s'en vont dans des pays
étrangers. Vont vivre tranquillement ailleurs.
Tranquillement ailleurs. Donc ils partent en Allemagne, en Angleterre, et les horlogers partent en Suisse parce qu'il y a déjà déjà des Français qui sont installés là-bas et qui les accueillent. Oh, ils n'ont pas accueilli comme des messies, mais ça se passe assez bien. L'intégration se passe assez bien.
Et alors, il y a un article dans votre dictionnaire passionné de l'horlogerie. Il y a un article intitulé donc « France, berceau des montres ». Alors, cocorico, là. L'histoire vient magnifier l'histoire de l'horlogerie en l'ancrant dans notre pays.
Oui, mais
ce que les Suisses nous contestent peut-être aujourd'hui.
Oui, oh, il y a eu énormément de bagarres, parce que vous avez... Pour la plupart des Français, l'arrivée de l'horlogerie, c'est Mégevan. Donc Mégevan, c'est un Suisse qui arrive à Besançon.
Donc Laurent Mégevan.
Mais avant Laurent Mégevan, il y a déjà de l'horlogerie. Il y a de l'horlogerie partout. Hein. Alors l'horlogerie a été, donc on parlait des protestants, donc c'est Louis XIV, en révoquant l'édit de Nantes, qui fait fuir la plupart des horlogers. Et donc il faut reconstruire une horlogerie. Et c'est ce qui est fait avant même l'arrivée de Mégevan. Hein. Donc on crée des manufactures horlogères, donc on crée une à Versailles, on en crée une à côté de Paris également, qui marche pas longtemps. Une des premières horlogeries, manufactures d'horlogerie s'installe aussi à Bourg-en-Bresse, donc dans l'Ain, pour faire la bisbille à Genève. Et ensuite, Mégevan arrive. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Vous avez déjà Voltaire aussi, hein, à Ferney, qui accueille des horlogers, qui crée aussi une manufacture d'horlogerie. Donc on a déjà deux manufactures d'horlogerie, donc celle de Bourg-en-Bresse, celle de Voltaire à Ferney. Et Besançon, c'est un peu plus tard, c'est-à-dire au moment de la Révolution française, où on considère que des horlogers peuvent venir s'installer en France parce qu'ils aiment les idées révolutionnaires. Pour Mégevan, c'est pas tout à fait vrai. Il semblerait qu'il avait quelques casseroles, qu'il aurait fait un peu d'escroquerie.
Il avait besoin de se faire oublier.
De la fausse monnaie, enfin bref, un certain nombre de malversations. Et donc il arrive quand même à Besançon avec 80 horlogers qui seront ensuite qui récupéreront ensuite leur famille, et puis d'autres horlogers viendront. Donc ce qui fait qu'il va y avoir des centaines d'horlogers suisses s'installant à Besançon.
Dans votre dictionnaire passionné de l'horlogerie, vous dites aussi que Annemasse, en Haute-Savoie, est un autre grand lieu ou haut lieu de l'horlogerie française.
Ah oui, c'est vrai, mais c'est un peu plus tard, ça. Annemasse est devenu ce haut lieu de l'horlogerie parce que c'est un pays où il y a beaucoup de décolteurs, hein, donc on faisait des mini-pièces, hein, des micro-pièces. Donc, tout naturellement, les décolteurs se sont mis à fabriquer de l'horlogerie. Et effectivement, sont devenus des centres manufacturiers d'importance. Mais c'est plutôt après la Deuxième Guerre mondiale.
Jean-Marc Loiseau, si vous le voulez bien, on va marquer un premier intermède musical. Je rappelle que vous nous accompagnez jusqu'à midi dans l'émission littéraire de Radion. Je redonne la référence de votre très bel ouvrage paru il y a maintenant 3 ans, me semble-t-il,
ça, oui,
hein,
oui,
aux éditions du Sequoia. On salue Alain Mandel s'il nous écoute. C'est le dictionnaire passionné de l'horlogerie de Jean-Marc Loiseau que nous retrouvons dans quelques minutes après la virgule musicale que nous vous proposons.
Je me laisse, je fais facile, je chante, c'est que ma vie en péril, des nuits ça me hante, quand de haut en bas Satan, moi les yeux fermés j'avance, tout en inconscience quand j'y pense. Toi, tu crois que je brille, que je monte, mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, de montrer mes doutes, j'en appelle à C'est ok, je suis fragile, presque sans défense. Ne crois pas que c'est futile, c'est ici que tout commence. Quand dedans ça papillonne, que ça s'agite, que ça cogne, je me défile et je m'étonne. Toi, tu crois que je brille, que je mens. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Le temps s'écoule agréablement avec notre historien de l'horlogerie, Jean-Marc Loiseau, qui nous accompagne aujourd'hui sur l'antenne de Radione pour son dictionnaire passionné de l'horlogerie. Juste avant la virgule musicale, nous parlions des origines de l'horlogerie en France. Donc, vous nous l'avez dit, près des châteaux de la Loire. Alors, le Doubs reste bien sûr... Le Haut-Doubs, horloger et forestier, Besançon, la capitale du Doubs et préfecture, a bien sûr presque tous les honneurs de l'horlogerie. Il faut mentionner aussi, alors, près de la frontière suisse, hein, Morteau, Villers-le-Lac, le plateau de Mèche, Ornans aussi, petite terre horlogère.
Oui, très petite cité horlogère, mais il faut savoir que vous aviez une entreprise de fabrication de machines-outils qui avait été rachetée par Fred Lippe à l'époque et qui s'appelle toujours d'ailleurs Lippemec. Lippemec, donc c'est pratiquement la dernière chose originelle de la société Lippe, telle historique, on va dire.
Alors, coup de projecteur, bien sûr, sur Besançon, mais il ne faut pas oublier nos voisins suisses, la région des Brenets, le Locle, Daniel-Jean Richard, par exemple. Et puis, il y a toute la région comprise entre la Brévine et la métropole horlogère de la Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel. Puis, on peut aussi pousser jusqu'à Bienne.
Oui. Oh, bah, de toute façon, la Suisse, c'est l'horlogerie, hein. Vous avez Rolex, c'est partout, hein. Maintenant, je crois qu'ils reconstruisent encore une nouvelle usine après Bienne, justement. Donc, oui, eux, c'est un développement extraordinaire. Avec aujourd'hui encore, énormément de cadres, de créateurs horlogers qui sont français. Et même les petites mains, beaucoup sont formés à l'école de Morteau ou à l'AFPA de Besançon, qui distille encore des cours d'horlogerie.
Oui, alors c'est le lycée de Garfort, hein, c'est ça, avec sa section horlogerie, et les étudiants gens viennent des quatre coins de France pour apprendre l'horlogerie à Morteau. Alors, il y a eu à Besançon, on va s'arrêter à nouveau à Besançon, à une époque, il y avait l'École nationale d'horlogerie à Besançon qui n'existe plus, mais qui a été remplacée par un autre établissement scolaire.
Bah, c'est-à-dire que c'est devenu JULAG, parce qu'on a décidé que l'horlogerie, entre guillemets, était quelque part un peu mort cliniquement. Et on a décidé plutôt d'orienter les élèves vers ce qu'on appelle la micromécanique, les microtechniques. Donc on est toujours un petit peu dans l'horlogerie, mais on est plutôt sur le quartz que sur la mécanique traditionnelle horlogère qu'ont conservé les Suisses. Et le lycée Edgar Faure de Morteau, lui, continue par contre à former des élèves sur la vraie mécanique, sur l'horlogerie.
Alors, petite curiosité lexicale. J'ai rencontré dans votre dictionnaire passionné de l'horlogerie le terme d'horlogeur.
Oui, c'est un terme ancien, très, très ancien. Oui.
Mais on disait des horlogeurs, alors sans H en plus.
Oui, oui.
O-R-L-O-G-E-U-R.
C'est tout à fait. Et alors, bon, c'est vrai qu'il y avait par exemple le terme mécanicien. Aujourd'hui, on dit un mécano, c'est celui qui répare la voiture, et puis c'est pas forcément un métier reluisant. Alors que mécanicien, à la fin du Moyen-Âge, à la Renaissance, c'est l'horloger le plus prestigieux. Un mécanicien, quand on a un horloger mécanicien, c'est mieux qu'un maître horloger. C'est le top des tops dans l'horlogerie.
Jean-Marc Loiseau, visitons ensemble, avec vous qui êtes un guide exceptionnel de la capitale comtoise, visitons Besançon. À Besançon, il y a une horloge astronomique absolument remarquable. D'ailleurs, j'encourage nos auditrices et auditeurs à se rendre sur le site internet Horloge Astronomique de Besançon. Toutes les informations et surtout des photographies. Cette horloge astronomique, est-ce qu'elle pourrait être le symbole aujourd'hui de la mécanique et de l'horlogerie byzantine?
Alors byzantine...
Hormis le prestige presque et cette légende qu'a été l'entreprise LIP.
Alors c'est un peu compliqué. C'est un vrai roman, cette horloge astronomique. Parce qu'au départ, elle est fabriquée, la première horloge astronomique est voulue par le cardinal Mathieu. Donc on est en 1850, hein, 1860. Et le cardinal Mathieu visite Strasbourg, la cathédrale de Strasbourg, tombe en admiration devant l'horloge astronomique qui avait été faite par Schwingli, enfin qui avait été refaite. Lui, il veut simplement restaurer l'horloge qui ne fonctionne pas. Et puis, il commence à lui parler de ses envies d'avoir une horloge comme ça, bah, il y a des gens qui commencent à lui donner un peu plus que ce qu'il donnait à la quête. Donc, quelques dizaines de milliers de francs à l'époque. Et ça lui permet de démarrer la construction d'une horloge astronomique. Il fait appel à un certain Bernardin, qui est un natif de la Haute-Saône, qui lui construit une horloge. Une horloge astronomique. Cette horloge est présentée à l'exposition universelle de Paris en 1850 devant Napoléon III et la reine d'Angleterre. C'est une horloge qui fonctionne à peu près. Bon, elle est un peu compliquée, elle fonctionne à peu près. Le problème, c'est que quand elle arrive à Besançon pour être installée à la place définitive, qui est voulu par le cardinal Mathieu, bah là, Bernardin, pour des raisons, on ne sait pas si c'est financier, pour des raisons... On sait pas trop, hein, c'est pour ça que je vous dis, c'est un vrai roman policier, abandonne un peu l'installation, et puis ce qu'il fait, ça ne fonctionne pas bien, enfin bref, tout merdouille, quoi. Excusez-moi l'expression. Et donc, le cardinal Mathieu se tourne à ce moment-là vers un autre horloger qui s'appelle Vérité, mais qui est du nord de la France, hein, qui est de Beauvais. Et c'est cet horloger qui va reprendre le travail...
De 1865 à 1868, précisément. Voilà. Alors, cette horloge astronomique de Besançon va être installée, elle l'est toujours, à la cathédrale Saint-Jean. Là, on est finalement pas très loin de la maison natale de Victor Hugo, Square Quinstor, Porte Noire, oui. Qui rappelle d'ailleurs, c'est vrai que Victor Hugo disait Besançon, vieille ville espagnole, mais on pourrait dire vieille cité impériale.
Romaine, en plus.
Romaine, absolument. Alors, 2 tonnes, 30 000 pièces, 72 cadrans et un ensemble de 22 automates. Et cette horloge astronomique de Besançon, c'est vous qui nous livrez toutes ces informations, fournit 122 indications. Alors, ah elle se découvre, mais c'est impressionnant de talent et de génie tout de même.
Tout à fait. Alors, le seul petit hic, c'est que cette horloge ne fonctionne pas. Alors, pour X raisons, c'est pas une propriété de la ville de Besançon, c'est une propriété de l'État. Donc, c'est le gouvernement français qui a normalement...
La responsabilité de l'entretien.
Exactement. Donc, sans doute pour des raisons financières, pour des raisons curieuses, les travaux ne sont toujours pas lancés pour la remettre en route. Donc, on fait toujours payer l'entrée, mais pour voir un instrument qui ne fonctionne pas. Et cette horloge astronomique a une particularité, c'est qu'elle pilote les horloges en façade. C'est-à-dire que les grands cadrans, les cadrans qui sont sur la cathédrale, ne fonctionnent pas, puisque l'horloge astronomique ne fonctionne pas. Donc vous êtes toujours, si vous allez à la cathédrale, vous avez toujours une heure. Allez-y à 10h10, vous aurez l'heure exacte. Quoi.
Une petite virgule sonore dans notre émission, quelques secondes, et on revient.
Là, effectivement, on a entendu une horloge comtoise. Et c'est intéressant parce que l'horloge comtoise est aussi une particularité alors franc-comtoise, hein, c'est pas Besançon, mais l'horloge comtoise est née dans le Jura. Donc, c'est développé un petit peu partout. On a encore des fabricants, même ici, on a encore des fabricants. Mais c'est vraiment une particularité jurassienne. Et... On a eu quelques essais d'horloges en Normandie, on a eu des horloges également en Haute-Saône, mais au départ, le système est vraiment une invention des frères Méret et une particularité tout à fait comtoise. Quoi.
Alors,
vraiment,
la comtoise, bien sûr, c'est un gros mécanisme. Est-ce à dire que c'est plus simple à entretenir que les micro-pièces
plus c'est gros, moins on a besoin de loupe, moins on a besoin de Bruxelles. Donc c'est vrai qu'on travaille pas de la même façon. Mais disons que les mécanismes, c'est effectivement une horloge, c'est une grosse, très grosse montre, ou une montre, c'est une très petite horloge, quoi. Hein, c'est comme ça.
Alors vous avez parlé du département du Jura. Là, je pense à un maître horloger qui est né à Saint-Claude en 1751. C'est Antide Janvier, à qui vous consacrez un article dans votre dictionnaire passionné de l'horlogerie. Alors formidable aussi parce que horloger mécanicien de Louis XVI.
Tout à fait, oui.
Et là aussi, on est considéré... Alors c'est amusant aussi parce que je pense à Beaumarchais, l'auteur du Mariage de Figaro, qui a eu comme vous, un parcours assez varié, mais Beaumarchais a été horloger avant que d'être le dramaturge que nous connaissons.
Tout à fait. Bon, pour Antide Janvier, lui, c'est l'horlogerie de A à Z. Hein. Voilà. Donc, il a fui un moment Paris pour des raisons politiques, parce que il s'est fâché avec le cardinal de Richelieu, et donc il est parti se réfugier à Verdun, auprès du frère du roi d'ailleurs, et il a épousé la fille d'un libraire à Verdun. Ah, c'est assez rigolo, quoi.
Alors, le vocabulaire horloger est très important pour faire une montre, je dirais, à la base. Un mouvement, un cadran, des aiguilles, une couronne, un verre, on appelle ça une glace aussi, je crois, glace,
oui, on peut.
Et une boîte. Et alors après, il y a tout un vocabulaire, alors bien spécifique, connu des professionnels de cet univers de la précision. Il y a la fourchette, le limaçon, le canon, le barillet, il y a ce qu'on appelle le pont, la potence, le coq, les poulets. Ne pas oublier, Jean-Marc Loiseau, aussi que dans une montre, on a besoin de l'huile. Mais alors, c'est pas de l'huile de cuisine, mais une huile extrêmement précieuse à utiliser.
Ah bah tout à fait. Il faut bien viser le centre du rubis, hein, mettre une goutte ni trop grosse ni trop petite pour que la montre fonctionne pendant le maximum de temps et dans les meilleures conditions.
Alors, il faut être bien installé, bien au chaud, une bonne luminosité aussi. Il y a aussi tout l'outillage, parce que évidemment il y a les pièces de l'horlogerie, mais il y a aussi tous les outils qui doivent être fabriqués. Bien sûr, bon, on travaille sur un établi. Il y a le quinquet. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un quinquet.
Bah, je pense qu'à Besançon, oui.
Mais dans Lyon, par exemple, là où l'on nous...
Je ne pense pas. Bon, c'est vrai que c'est la lampe d'horloger, la lampe classique. Donc, on appelle ça un quinquet, effectivement. Pour quelle raison ? C'est toujours un peu curieux, parce que les lampes aussi ont évolué. Hein. Au départ, ce sont des lampes à pétrole, hein, avec des verres réfléchissants. Tout a bougé. Aujourd'hui, on travaille avec des quinquets à lumière froide, hein, parce que si vous êtes sous une lampe qui chauffe, vous êtes vite en sueur, et puis c'est pas très bon pour l'horlogerie. Donc voilà, on a des outils vraiment adaptés au métier. Alors pour en revenir à la montre, ce qui est très important, c'est que au départ, donc si on revient, si vous voulez, à l'époque de Mégevan, voire même un petit peu avant,
donc fin 18e siècle,
fin du 18e siècle, vous avez une entreprise incontournable qui est également franc-comtoise, qui s'appelle Japy. Il faut savoir que Japy fabrique toutes les ébauches, pratiquement, on va dire 80% des ébauches.
Il faut expliquer ce que sont des ébauches.
Alors une ébauche, si vous voulez, c'est la base du mouvement mécanique. Donc une ébauche, vous avez toutes les pièces de la montre qui sont installées sur une plaque entre... Si vous voulez, vous avez une platine, vous parliez de pont tout à l'heure, donc vous avez une platine, vous avez des ponts, et entre cette platine et ces ponts, vous avez tous vos rouages. D'accord ? Ce qui manquait sur... La seule chose qui manque sur ces platines pour être fonctionnelle, c'est des choses très importantes, c'est le barillet avec son ressort, c'est-à-dire le ressort moteur, et également l'échappement. Voilà. Donc, on avait ici, sur Besançon, on avait... mis en place par Mégevan et sa colonie d'horlogers, c'est ce qu'on appelle l'établissage. Donc l'établissage, pour vous donner un exemple, nous sommes rue Battant.
À Besançon. Donc, hein.
À Besançon, toujours. À Besançon, il y a 458 horlogers, personnes qui travaillent pour l'horlogerie, dans la seule rue Battant.
À l'heure actuelle ?
Non, à l'époque.
À l'époque.
Je
me réjouissais déjà.
Au 19e siècle, il y a 458. Alors, je ne vous explique pas les fêtes de voisins, ils étaient tous en train de parler d'horlogerie. Hein. 458, ça fait quand même du monde. Donc, il y en avait autant rue de la Madeleine, il y en avait autant dans le centre-ville, il y en avait dans toutes les rues, il y avait des gens qui travaillaient. Alors, l'établissage, ce n'est pas compliqué. Vous aviez ces fameuses ébauches qui arrivaient, qui allaient dans des ateliers. Et chaque horloger, c'était pas vraiment des horlogers, toutes ces petites mains avaient des spécialités. Donc il y avait le fabricant d'aiguilles, il y avait les mailleurs, il y avait le polisseur, il y avait le planteur d'échappement.
Hein, le guillocheur.
Ah bah ça après c'est pour l'embellissement de la montre, hein, on n'en est pas encore là. Mais disons que pardon, on avait tous ces petits métiers qui apportaient la vie à la montre. Vous aviez le fabricant de ressorts, le fabricant de verre, et tous ces gens-là faisaient le travail qu'on leur demandait. Donc on commandait 10 verres à un fabricant de verre, on commandait 50 aiguilles à un fabricant d'aiguilles, etc. etc. Et tout ça était récupéré par l'établisseur, et l'établisseur faisait remonter toutes ces pièces par des horlogers complets à ce moment-là. Oui. Voilà, c'était le principe de l'établissage.
Alors, on parlait... Je vous disais, guillocheur, effectivement, l'embellissement de la boîte, pendant longtemps, la montre, c'est la montre Gousset.
Et il y a tout de même...
La montre de poche. Et il y a une révolution qui consiste à faire passer la montre au poignet, c'est-à-dire qu'on ne l'a plus dans la poche du gilet. D'ailleurs, c'était un outil très masculin, quand même.
Non.
Les femmes avaient aussi une petite montre.
Oui. On parle même d'une des premières à avoir eu une montre de poche. Ça doit être la reine d'Angleterre, voilà. C'était un vrai bijou, hein. C'est-à-dire on avait une châtelaine, c'est une belle chaîne de montres avec des breloques, avec des décorations, avec des pierres précieuses et une montre bien sûr qui était accrochée. Et c'était très 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 féminin. Et alors effectivement, comme il y avait beaucoup plus d'hommes à travailler, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui conduisaient des taxis, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui conduisaient des locomotives, etc. Donc on avait toutes ces professions qui avaient besoin d'une montre. Dans n'importe quelle gare, chaque personnage avait sa montre pour faire partir les trains à l'heure. Hein.
Dictionnaire passionné de l'horlogerie, c'est le titre de l'ouvrage de notre invité Jean-Marc Loiseau qui nous accompagne jusqu'à midi dans Wagon Livre sur Radio. On marque un nouvel intermède musical et on se retrouve juste après.
Toute la nuit j'entends nuages, m'en veux d'avoir trébuché. La vie n'est le sens de l'abandonner. Mais comment tourner la page? Alors si c'est ça que tu voulais. Et comment calmer l'orage? Ce sort qui me pèse en secret. Alors passe comme tu sais. Mais reviens s'il te plaît.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Jean-Marc Loiseau est en notre compagnie aujourd'hui jusqu'à midi devant le micro de Radion, historien de l'horlogerie. Ancien horloger, aujourd'hui à la retraite et résident à Besançon, mais très occupé, notre ami Jean-Marc. Les femmes sont connues pour leur précision, leur propreté, leur méticulosité. Et pourtant, en feuilletant votre dictionnaire passionné de l'horlogerie, on a le sentiment qu'il s'agit d'un univers très masculin.
Alors, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais ça l'a été longtemps, très longtemps. Il faut savoir qu'il y a eu deux époques importantes pour la femme. La première, c'est à la Révolution française, donc avec Mégevan. La Convention décide d'obliger les Suisses, enfin pas d'obliger les Suisses, mais de demande aux Suisses de former des femmes. C'est très important, ça. Un apprenti femme... gagner plus d'argent qu'un apprenti homme, et le patron qui employait un apprenti femme avait également plus de je ne sais pas si on peut parler de salaire, mais voilà, il était plus intéressé.
Alors
la deuxième période, c'est la Première Guerre mondiale. Parce que la Première Guerre mondiale, boucherie, les hommes sont tués ou sont à la guerre, enfin bref. Et on ouvre, c'est à ce moment-là qu'on ouvre les écoles d'horlogerie aux femmes. L'école de Besançon est accessible aux jeunes filles et aux femmes.
Alors c'est aussi pour cela que la montre devient montre-bracelet, notamment pour les combattants dans les tranchées.
Tout à fait, parce que c'est très compliqué d'avoir un fusil, une gourde, une baïonnette, un casque, etc. Et puis en plus d'avoir une montre à sortir, vous en parliez tout à l'heure, de la poche du gilet. Et donc on a décidé, alors au départ, c'est pas la montre bracelet qu'on connaît, hein. Au départ, c'est des bricolages qui sont faits. Alors souvent on prend des montres femmes, un peu plus petites, toujours des montres de poche, mais qu'on insère soit dans un fourreau en cuir, soit sur une partie métallique, une sorte de bracelet, et on va mettre cette montre-là à l'intérieur. Et puis après, bien sûr, ça va évoluer. On va avoir des aiguilles lumineuses sur les montres. On va avoir les vraies montres bracelets. Et après guerre, ben voilà, c'est la fin de la montre de poche. Alors c'est assez progressif, mais voilà, les premières montres arrivent, qui sont de plus en plus petites, parce que il faut savoir aussi que plus une montre est petite, plus une montre est plate, plus c'est la preuve d'un savoir-faire horloger. Or, aujourd'hui, on a de plus en plus de grosses montres, de grosses patates. On est revenu un peu au côté mastoc, comme montre, c'est ce que ça
Alors,
veut
sont-elles
dire.
Alors, sont-elles précises, ou est-ce que ce sont des patraques? Voilà un beau terme, une montre de très médiocre qualité, une patraque.
Tout à fait.
Amusant.
Tout à fait.
Vous parliez, Jean-Marc, des cadrans qui phosphoraient dans la nuit, où l'aiguille pouvait être phosphorescente. Ça a un lien avec les Radium Girls, c'est une entrée de votre dictionnaire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des Radium Girls?
Ben malheureusement oui, ben c'est l'utilisation, si vous voulez, du radium, du tritium. Alors là, les Radium Girls, c'est une entreprise américaine qui a été condamnée parce que les femmes qui plaçaient du radium sur les aiguilles pour les rendre lumineuses, pour qu'on puisse les voir la nuit, avaient pris l'habitude de mouiller le bout du pinceau pour le rendre le plus fin possible, et bien sûr le mouiller avec la langue. Hein, la salive qui était sur la langue, donc elle passait. Et bien sûr, il y avait toujours des traces de radium, de tritium sur les pinceaux. Et donc, la plupart, celles qui ne sont pas mortes, ont eu des cancers de la gorge, des cancers de la bouche, enfin, vraiment des choses affreuses. Il y a eu énormément de décès. Et donc, ça a été interdit. Alors, il faut savoir que l'utilisation du radium a été interdite interdit en France bien plus tard. Je crois qu'on est jusque dans les années 60-70, avant l'arrivée du Luminova, qui était une invention japonaise, on utilisait encore du radium. Et vous avez des sites sur Mèche, sur Morteau, qui sont complètement...
Contaminés,
radioactifs, c'est... Voilà, et des entreprises. Et en Suisse, c'est pareil. Alors, on a mis une chape de plomb, c'est le cas de le dire, pour l'uranium, enfin... Donc, on a mis une chape de plomb sur ça, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de décès. J'avais rencontré quelqu'un qui m'avait montré l'état civil, donc les naissances et les décès, et il s'était intéressé aux horlogers. On a beaucoup plus de mortalité infantile parmi les horlogers. Donc, on s'est dit qu'il y avait l'utilisation de produits pas toujours très très sains.
Voilà, Radium Girls, donc un article, et effectivement, ces pauvres femmes qui ont développé des cancers à cause, bien sûr, de ces substances radioactives qui permettaient de faire briller les aiguilles dans la nuit.
Hein. Oui, et les horlogers faisaient une publicité. Lippe, par exemple, dit première montre à avoir des aiguilles lumineuses pour l'armée. Enfin, c'était vraiment c'était leur cheval de bataille, c'était du marketing.
Lip, 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 hourra,
hein, oui, exactement.
Une publicité. Un peu de douceur, là, on va écouter le bruit d'une horloge bien particulière que tout le monde va reconnaître.
Oui, alors effectivement, là, c'est le son caractéristique du coucou. Alors le coucou, c'est pas une invention française. On parle de coucou suisse, mais le coucou suisse parce que ça a été repris. Mais au départ, c'est allemand. Le coucou est né en Forêt-Noire. Et bon, c'est un produit, on va dire, pour touristes. C'est la petite horlogerie. C'est un côté sympathique. Hein. Il y a un aspect horloger en même temps avec ces pommes de pin qui forment les pois, et également
une esthétique à côté ludique, magique.
Voilà. Et puis ce coucou qui sort, quoi. Il y a un côté automate, ouais. Petit automate, quoi.
Alors c'est vrai que l'horlogerie, bon, on a parlé des montres de poche, montres bracelets. Il y a aussi l'horlogerie, alors monumentale, cette famille prêtre qui existe toujours et qui travaille sur ce qu'on appelle des mécanismes d'horlogerie monumentale. Mais il y a aussi tout ce qui est pendule, avec, et ça aussi, votre dictionnaire passionné de l'horlogerie le précise, l'utilisation du bois qui est parfois essentiel.
Ah ben bien sûr. Ben on est dans des pays forestiers, hein. Donc vous avez sur la région de Champagnole, la région de Saint-Claude, de Morée, ben vous aviez autant d'horlogers que de menuisiers, hein. Donc on travaillait la caisse d'horloge, on travaillait le carillon, tout ça c'est en bois, et on faisait également beaucoup de jouets, des automates, des choses comme ça, toujours.
Alors cher Jean-Marc, revenons avec et grâce à vous à Besançon. Il y a Besançon, il y a un nombre de marques. Alors vous y arrêtez sur certaines. Bien sûr, vous êtes un historien. Ça parle peut-être à des gens d'un certain âge. Bien sûr, il y a des marques qui ont complètement disparu. Je pourrais d'ailleurs en citer quelques-unes. Alors aidez-moi. Voilà, c'est ça. Il y a Sarda, Trib, Dollar, Ultra dans les années 50 à Besançon. Hein. Yema, Elix, Sim, Nappé ou la marque Philippe.
Je vous arrête, j'ai trouvé plus de 650 marques à Besançon.
Oui, c'est
énorme. Alors, et j'ai 1000...
Et des sous-marques aussi.
Oui, alors bien sûr. Mais j'ai 1000 marques de montres que je ne connais pas l'origine. Donc sur ces 1000 marques dont je ne connais pas l'origine, il y a certaines qui ont peut-être été fabriquées à Marseille ou à Nantes ou à Saint-Claude dans le Jura. Mais sur ces 1000, il y a encore au moins plusieurs centaines qui viennent de Besançon. Alors, ça ne veut rien dire, une marque de montre. Hein. Il suffisait de mettre son nom sur le cadran et puis tartampion. Moi, j'ai même rencontré quelqu'un qui avait créé une marque de montre pour un mariage. Vous voyez, donc c'est quelque chose d'extraordinaire.
Avec une précision parfois très médiocre, puisqu'en fait, il suffisait de dire qu'elle était de Besançon. C'était un argument de vente supplémentaire. Alors là, on s'arrête à une famille, c'est Lippmann, qui devient ensuite la marque Lipp. Alors là, Jean-Marc Loiseau, Lipp, c'est une légende très très forte qui a fait battre le cœur de beaucoup de monde et le cœur aussi de beaucoup de Françaises et de Français, et celle du général de Gaulle également.
Ah ben, Lipp, c'est une grande histoire. C'est une grande histoire industrielle, c'est une grande histoire commerciale, c'est une grande histoire syndicale. Hein, oui. Et donc, tout est réuni, si vous voulez. Hein. Donc, au départ, c'est comme tous les horlogers de Besançon, c'est un petit atelier. En l'occurrence, ils étaient installés dans la Grande Rue avec plusieurs autres horlogers.
Alors, vous dites 1867, ils s'installent aux 14 Grande Rue à Besançon.
Tout à fait.
C'est le début de la naissance de la marque Lipp à Besançon, avant la guerre de 70, quoi.
On considère que les Lipp travaillaient peut-être... si vous voulez, là, c'est la création de la marque Lipp, hein, et effectivement de la manufacture Lipp. Mais avant, ils avaient déjà une des activités horlogères. Hein, ça, c'est sûr et certain. Même les parents, hein, c'est des gens qui viennent d'Alsace. Donc, c'était aussi un haut lieu de l'horlogerie, hein, puisque les Alsaciens sont partis en Suisse, sont restés sur Montbéliard ou sont partis sur Besançon.
En tout cas, vous précisez qu'il y a un ancêtre, Isaac Lipp, qui a remis un chrono en or à l'empereur.
Oui, alors là, c'est ce que affirme Fred Lipp dans sa communication. Il y a des gens qui disent que c'est une invention, donc que c'est un peu bidon. Beaucoup expliquent que c'est parce que le Lippmann en question, qui représentait la congrégation juive de Besançon, son nom c'était Lipp avec deux P. Lippmann avec deux P. Alors que Lippmann, il y en a un seul pour la famille. Mais comme il y avait énormément d'erreurs d'orthographe ou d'écriture dans les mairies, c'est fort possible qu'il y ait un P qui a disparu au fil du temps. Hein.
Alors 1893, donc Lipp produit plusieurs marques, il y a plusieurs marques de monde, mais c'est Lipp qui...
Ils ont déposé des dizaines, voire des centaines de marques avec, par exemple, toutes les régions de France, la Normande, l'Atlantique, la Bretonne, c'est des marques qui ont été déposées par Lipp. Ils ont dit, on va déposer tout ce qu'on peut, quoi, et puis on verra ce qui marche.
La marque Lipp est déposée en 1908. En 1927, Lipp dépose le chronomètre de France. En 1929, j'ai noté, arrive la sous-marque SAM, qui sera abandonnée dans les années 40. 1957, alors, cette famille Lipp, plus d'un siècle d'existence, à Besançon, entre autres, une marque nationalement connue et qui offre une montre... Même deux montres, paraît-il, vous le dites, au général de Gaulle.
Et tout à fait, oui. Pas qu'au général de Gaulle, parce qu'il y a aussi Eisenhower qui part avec sa montre. Et ben, Lipp, c'est un malin, hein. c'est le roi du marketing. Hein. Il sait se placer. Il travaille même avec les Jeux Olympiques. Enfin voilà. Donc il dit, pour lancer cette montre qui est une révolution. Hein, c'est une révolution. C'est avant le quartz. C'est la première montre électrique.
Hein, donc c'est une montre. Donc la montre électrique, c'est la montre avec pile, c'est ça ?
Avec une pile. Alors, si vous voulez, la base, c'est une montre, on va dire classique, hein, avec des rouages, c'est pas du tout le quartz. Hein, et donc on a un rouage, on a un balancier spiral. On a simplement remplacé le moteur qui était jusqu'à présent un ressort tendu, par une pile. Des fils, bien sûr, une bobine pour faire fonctionner le tout. Donc c'est cette pile qui donne l'impulsion à la montre. Alors c'est une vraie révolution. Alors il en profite pour faire sa publicité en offrant une au général de Gaulle.
Deux.
Alors une au général de Gaulle et il en confie une à son aide de camp, on va dire. Et l'aide de camp a charge pour lui de tous les 3 mois ou tous les 6 mois de renvoyer la montre à Besançon. Donc Fred Lipp, il s'embêtait pas, lui remplaçait carrément le mouvement et puis ça repartait pour un tour. Donc le général de Gaulle a toujours eu une montre en parfait état. Et il avait effectivement deux montres, l'une remplaçant l'autre à chaque fois que la première était dans les ateliers LIP.
Alors LIP, c'est aussi, et vous l'avez précisé, c'est aussi un moment fort de l'histoire syndicale.
Oui, parce qu'en 73, alors au départ, LIP a revendu ses actions, enfin a revendu son entreprise. Il a revendu ça à SUAG, qui est le consortium suisse. Donc les Suisses, viennent à Besançon dans le but de faire un peu d'épuration. Donc on va licencier.
On dégraisse.
On dégraisse. Ce qu'ils veulent, c'est récupérer les brevets. Ce qu'ils veulent, c'est récupérer la marque, parce que la marque est vendeuse, la marque est populaire. Donc voilà. Et puis ils ont décidé d'abandonner. Alors ils veulent abandonner tout l'aspect militaire et ils veulent le moins de monde possible, puisqu'ils ont déjà les horlogers. Hein, donc c'est facile de fabriquer les montres de l'autre côté de la frontière. Donc on n'a pas vraiment besoin de LIP. Ils viennent avec un plan de licenciement. Le plan de licenciement, les syndicats le trouvent, les ouvriers de LIP le découvrent. Et puis à ce moment-là, ils décident de bloquer l'entreprise. Voilà. Et part à ce moment-là ce fameux conflit qui est né en 73 et qui va durer pratiquement un an, et avec le slogan un peu d'autogestion, on fabrique, on se paye, on vend et on se paye. Donc c'est quelque chose qui a bouleversé toute la France à cette époque-là. Donc tout l'été 73, il y a eu des vagues de touristes qui sont venus à Besançon pour aider les ouvriers libres, parce que c'était une belle idée utopique, mais une belle idée.
Au pays de Proudhon et de Fourier, hein, précurseur du socialisme, né dans cette ville de Besançon. Et c'est le 14 août 1973 que les CRS évacuent Manu Militari, l'usine LIP de Palente. Je voudrais juste d'ailleurs préciser, c'est aux éditions du Sequoia, chez votre éditeur, il y a un livre qui revient sur ce conflit LIP, hein, c'est Piaget LIP de Joël Mamet, donc au Sequoia. C'est une biographie de Charles Piaget, donc figure du mouvement ouvrier, même international d'ailleurs, qui il disait à propos du conflit LIP, c'est pas des murs l'usine, c'est d'abord des travailleurs. Alors il y a un deuxième conflit LIP en 76, pour parler Helvète, Jean-Marc, mais LIP aujourd'hui, alors, la marque existe toujours.
Oui, alors donc il y a eu ces deux conflits, ensuite LIP est devenu les Industries de Palente, une coopérative avec beaucoup moins de salariés qu'au départ, hein, parce qu'on est passé de 1200 à plutôt 200. Et donc, il y a un certain nombre de séparations, de fractures. Ça a été différentes petites cellules industrielles, quoi, avec beaucoup moins d'employés.
Alors, Jean-Marc Loiseau, lorsqu'on est chez vous, bien sûr, il y a beaucoup de pendules, des pendulettes, de très belles pièces, très anciennes, des choses de valeur, vraisemblablement, et elles en ont d'autant plus que vous avez su
leur redonner. Dites-moi ça, je vais faire cambrioler.
Moi, je n'ai pas donné l'adresse, hein. Je dis rue Battant, mais bon. Vous avez eu la chance de recevoir, parce que vous l'avez sollicité, vous possédez donc une lettre rédigée par Brigitte Bardot ?
Oui.
Alors, pourquoi avez-vous écrit à Brigitte Bardot?
Parce que j'ai découvert que Brigitte Bardot avait servi de modèle, avait posé pour une marque de montres qui s'appelait Eterna. Donc les montres Eterna qui avaient sorti un modèle, c'était Eternamatic. Et il y avait un peintre du nord de l'Europe qui avait dessiné son portrait, et elle portait... Alors moi j'ai voulu savoir si elle avait quelques informations à me donner sur sa participation à cette campagne de publicité, et elle m'a gentiment répondu que non, mais que par contre elle était qu'elle aimait beaucoup l'horlogerie et les pendulettes d'officiers.
Alors il est vrai que les marques horlogères ensuite ont utilisé pour leur publicité, des photographies de célébrités, hein, Mireille d'Arc, Roger Moore, Hemingway, et puis maintenant plutôt des sportifs, parce que bon, la montre est sportive, dynamique, robuste, fougueuse.
Oui. Ce qui était curieux, c'est qu'on avait, par exemple, énormément dans les années 60, 50, 60, on avait les cyclistes du Tour de France qui faisaient de la publicité pour Dufort, pour Altitude à Morteau, par exemple. Et ce qui était très curieux, c'est qu'ils n'avaient jamais de montre au poignet sur leur vélo. On les voyait jamais avec des montres, mais par contre, ils faisaient de la publicité. Donc, c'est une petite curiosité.
Alors, ce quartier battant, ce quartier des Bousbeaux, d'ailleurs, hein, c'est le quartier des turbulents et des spirituels vignerons de Besançon. Alors, il y avait donc des nids d'horloger, hein, vous expliquez. Dans le Haut-Doubs, à la ferme l'hiver, certains paysans, emprisonnés par les neiges, travaillaient à la fenêtre.
Oui, mais comme ils le faisaient dans le Jura pour les comtoises, hein, parce que c'était les paysans l'hiver qui effectivement étaient désœuvrés et collaboraient à la construction des horloges comtoises et à Besançon ou dans le Haut-Doubs à la fabrication l'établissage que j'évoquais tout à l'heure.
Alors, qu'en est-il de cette tour Eiffel à Besançon, puisqu'il y a une entrée extrêmement savoureuse dans ce dictionnaire passionné de l'horlogerie?
C'est vrai que ce que j'ai recherché avec ce dictionnaire, c'est surtout les petites anecdotes, les petites curiosités, l'avenue de Goscinny à Besançon, René Goscinny à Besançon, à l'appel d'horloger, hein, pour faire une bande dessinée avant Pilote, avant Astérix, et est venu avec ses copains et également là donc tout un tas de d'anecdotes comme ça savoureuses qui me de laquelle on parlait.
Oui, les oiseaux horlogers, là c'est dommage qu'une photo n'a pas été faite de ce nid d'oiseaux où les oiseaux avaient récupéré, puisque vous expliquez que parfois on jetait des pièces qui étaient abîmées, on les jetait dans la nature, et les oiseaux récupéraient, et on a trouvé des pièces d'horlogerie dans un nid, c'est sublime.
Alors il y a un nid au musée de Soleure en Suisse, qui est présenté au public, c'est un nid qui a été fabriqué avec des bouts de ressorts de montres. Donc tous ces ressorts de montre ont été utilisés par ces oiseaux pour constituer un nid. C'est extraordinaire, c'est des bouts de métal. Hein. Voilà, c'est vraiment fantastique. Donc c'est à Soleure. J'ai l'intention d'y aller prochainement parce que j'ai 2-3 rendez-vous là-bas et je reprendrai des belles photos.
Alors si on ne peut pas aller visiter le musée international de l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, le musée du temps à Besançon, le musée de la montre à Villers-le-Lac ou le musée du château Pertuisier à Morteau, ma ville natale, on peut en tout cas faire un beau voyage, sublime voyage dans cette histoire de l'horlogerie, dictionnaire passionné de l'horlogerie de Jean-Marc Loiseau qui nous a accompagnés pour notre plus grand plaisir aujourd'hui dans Wagon Livre sur Radio. Oui Jean-Marc, le temps tourne très vite avec vous et vos histoires passionnantes.
Je suis très bavard.
Et érudit et passionné, donc ce dictionnaire passionné de l'horlogerie aux éditions du Sequoia, richement illustré, mais vous pourriez faire un autre tome.
Ah ben j'ai de quoi en faire deux autres.
Oui. C'est en projet ou...
Alors,
en dormance.
On attend un peu. Mon éditeur est un peu au repos en ce moment pour des raisons de santé, donc on attend.
Juste dernier petit point. Bon, il est question aussi de la Russie qui a essayé d'attirer des manufactures d'horlogerie. La montre de Yuri Gagarin, un peu des pièces slip.
Alors Fred Lip installe une entreprise, aide la Russie, si vous voulez, enfin l'Union soviétique à l'époque, à reconstruire une vraie industrie horlogère. Donc il installe des chaînes pour reconstruire la T18 qui est un peu abandonnée en France, hein, la T18 c'est cette montre, une montre emblématique de chez Lip, hein, une montre rectangulaire. Et donc on remet en place les chaînes pour la T18 et donc les Russes ont continué pendant très très longtemps à fabriquer de ces modèles-là, qui sont écrits en russe, mais que moi j'ai récupéré pour réparer des montres LIP avec ces pièces. J'ai récupéré des tas de mouvements russes. Enfin bref. Et ensuite, il a monté une autre chaîne, d'autres chaînes de montage. Enfin, il a installé d'autres chaînes de montage qui sont la R25. La R25, c'est, bon, R c'est rond, T pour la T18 c'est tonneau, format tonneau, et R pour format rond. Rond, 25, 20, R25, rond de 25 mm. Donc, ces mouvements, ces chaînes ont été mis en place pour faire de la montre soviétique, mais sur des bases françaises. Et effectivement, Yuri Gagarin part dans l'espace avec une R25, avec un modèle R25 marqué à la marque soviétique, quoi.
Dernière petite sonnerie à l'instant, vous l'aurez reconnu, une sonnerie d'une pendule Westminster pour marquer la fin de notre échange. Je rappelle Jean-Marc Loiseau, dictionnaire passionné de l'horlogerie. Puis pour celles et ceux qui ont raté notre émission, pas de panique, on la retrouve en podcast sur yannickpetit.fr. Merci Jean-Marc Loiseau d'avoir été en notre compagnie et de nous avoir fait vivre plusieurs pages d'histoire de l'horlogerie française et suisse.
Un peu russe.
Et un petit peu russe. Prost et vodka. Merci à toutes et à tous. Excellent congé de fin de semaine. Au revoir Jean-Marc Loiseau et merci.
Bonne journée.